Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Si les mots ont leur histoire, c'est parce qu'ils sont porteurs de l'histoire qui se fait à travers les époques. Ainsi, depuis une quarantaine d'années, le mot « transparence » a été enrichi et transformé. Dans la foulée de la glasnost, mise en place par Gorbatchev en 1986, la transparence a eu ses heures de succès et il est nécessaire de mettre en perspective la fin de la guerre froide, la mondialisation du libéralisme qui s'en est suivie, ainsi que le développement d'une organisation en réseau, dont les réseaux sociaux déploient l'horizontalité en même temps qu'ils propulsent leurs propriétaires au sommet du pouvoir. Dans le cabinet du psychanalyste, mais aussi dans les conversations quotidiennes, on entend de plus en plus des êtres, de chair et d'os pourtant, qui affirment vouloir être transparents. Étrange désir, où l'on peine à démêler ce qu'il en est du désir d'éradiquer tout trouble de celui de ne pas être vu. Être transparent, en effet, à la fois ce à travers quoi l'on voit et ce qui ne se voit pas. Ainsi, de la fenêtre immaculée qui s'efface pour laisser voir, sans rien cacher, ce qu'elle encadre. À la fin du XVIIIe siècle, le philosophe utilitariste Jérémy Bentham mit au point un type d'architecture carcérale, le panoptique, qui avait pour objectif de permettre à un gardien, logé dans une tour centrale, d'observer tous les prisonniers, enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que ceux-ci puissent savoir s'ils étaient observés. Ce dispositif donnait aux détenus le sentiment d'être surveillés constamment, et ce, notamment parce qu'ils ne pouvaient savoir véritablement quand. L'idée émanait d'une double exigence, que les prisonniers aient des cellules individuelles et que les coûts de leur incarcération soient abaissés. Le rêve aurait été, bien sûr, que, de plus en plus isolés, les prisonniers prennent eux-mêmes en charge leur propre surveillance, voire que chacun, tranquillement enfermé dans une bulle, exerce sur lui-même et les autres une surveillance. Mais, au XVIIIe siècle, on n'en était pas là encore. Que la demande de transparence cache à n'en pas douter un désir de contrôle, on le voit notamment lorsque l'un, voire les deux membres d'un couple, regrettent le manque de transparence de son partenaire. Coexiste alors un drôle de mélange où, tout en exigeant la transparence dans le couple, on tente à grand-peine de préserver un jardin secret dont on a intégré, à force de lecture et par un saint égoïsme, qu'il était nécessaire. Un jardin secret donc, mais dont les plantations autorisées sont en nombre si limité qu'on se demande ce qu'il peut lui rester de secret, ou même si on aurait encore le droit, plutôt que de le transformer en fertile potager, de le laisser en sauvage jachère. Finalement, tout se passe comme si chacun autorisait son conjoint à cultiver un jardin secret, pourvu qu'il puisse bénéficier des fruits, légumes ou fleurs qu'il est tenu d'y faire pousser. Bref, entre le jardin secret obligatoire et la transparence imposée, chacun se débat avec des injonctions contradictoires que, d'ailleurs, la psychologie a largement contribué à populariser. N'a-t-on pas prétendu qu'il fallait tout dire et surtout que tout pouvait se dire? La psychologie maternante parfois remplaça l'autorité patriarcale pour s'assurer un pouvoir sur des individus de plus en plus soumis aux injonctions intérieures. Ainsi, au nom de cette transparence, on voit des parents se délester sur leurs enfants de la responsabilité qui leur incombe d'assumer leurs propres angoisses, quand d'autres, jouant au psy, submergent leur progéniture de suggestions, informations et autres questions, sous le prétexte qu'il ne faudrait rien garder de trop lourd sur le cœur, et sans aucun doute dans un désir qui mêle angoisse parentale et désir de contrôle. Derrière ces connotations cristallines, la transparence est, à n'en pas douter, une surveillance, d'autant plus puissante qu'elle est insidieuse, d'autant plus violente qu'elle apparente le besoin d'intimité à une volonté de dissimulation. Seul, dit-on, celui qui aurait quelque chose à cacher ou à se reprocher refuserait la transparence. Sans doute aurait-il fallu être un peu plus prudent lorsque ce qu'on appelle la guerre froide se termina sur cette politique de la transparence. Sans doute aurait-il fallu se demander si les exigences de puritanisme et de productivité des États-Unis n'allaient pas s'entrelacer à des obsessions de contrôle aux dimensions planétaires. Pourtant, Si l'exigence de transparence faite à autrui dissimule mal une volonté de contrôle sur ses faits et gestes, pensées et sentiments, dans une angoisse qu'il faudrait bien qualifier de paranoïaque, il faut aussi se demander ce qu'il en est de la transparence qu'on exige de soi-même. Intériorisation de l'injonction parentale et ou sociale ? Héritage du justement nommé « siècle des Lumières » ? Dans un essai passionnant qui dresse un état des lieux de la recherche sur le nazisme, Johan Chapoutot, Christian Ingrao et Nicolas Patin montrent que le nazisme, loin d'être un accident, fut la sécrétion la plus cohérente, radicale et conséquentialiste d'une histoire occidentale qui avait créé toutes les catégories mentales et tous les instruments techniques d'une domination du monde et d'une réduction des êtres, des espaces et des choses. Ainsi, ce siècle des Lumières, en luttant de toute son humanité contre les obscurantismes, a pourtant accouché des heures les plus sombres, jusqu'à présent, de notre histoire. Faut-il regretter les tentatives des Lumières ou refuser tous les mouvements qui ont secoué et secouent encore l'obscurantisme des dominations ? Certainement pas. Mais il est assurément délicat de trouver comment maintenir le clair-obscur nécessaire pour que les phares des miradors ne remplacent pas l'obscurité des geôles. Plus encore, il convient de rappeler que l'obscurantisme et la transparence, les geôles et les miradors, ont plus en commun entre eux qu'avec les amoureux du clair-obscur. Loin de prétendre faire toute la lumière, et pour cause, sur une aussi complexe et mouvante question que celle de la transparence, il semble néanmoins légitime d'interroger les rapports qu'entretiennent la tendance à la transparence et la tentation d'y voir plus clair. La curiosité et la tentation par laquelle elle s'incarne, dans la Genèse par exemple, laissent penser que la pulsion épistémologique, telle qu'elle pousse notamment à partager 8 minutes de chronique radiophonique, a probablement quelques côtés adjacents avec le désir de transparence ou, pour le dire autrement, que le désir de connaître, comme le visage de Janus, a 2 faces inséparables. Prendre conscience qu'on ne peut séparer ces 2 faces-là qui s'opposent et se complètent autant qu'elles se limitent l'une l'autre invite à prendre la responsabilité d'une parole jamais définitive ni complète. Dès lors, on peut se demander si la mise à nu volontaire sur les réseaux sociaux ou les plateaux de télévision n'a pas quelque chose à voir avec le refus ou l'impossibilité d'assumer l'incomplétude de toute parole. Dès lors, il n'est pas interdit de penser qu'un marché est conclu où le prix à payer pour être débarrassé de notre douloureuse incomplétude serait l'acceptation d'une surveillance totalitaire. Cependant, rien ne nous interdit de rêver que cette demande explicite de transparence cache, à son tour, le désir plus secret et plus inconscient de disparaître pour échapper à l'inquisition des regards. Rien ne nous interdit de rêver que derrière cette quête explicite de transparence se cache le secret et inconscient désir de ne pas faire obstacle au monde en soi et de tenter, à son insu, de préserver son mystère. Rien ne nous interdit d'interroger ce qui insiste de totalitarisme en chacun de nous. On ne saurait, décidément, tirer définitivement cela au clair. I've got big balls, I've got...